Un peu vous reposer aujourd'hui dans ce jour férié. Nous sommes reconnaissants que la guerre s'est terminée. Ça, c'était la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918. Et il y a eu la seconde ensuite. Hein. Mais nous sommes en guerre en ce moment même, hein, puisque nos troupes sont en train de combattre en Syrie. Mais la guerre n'est pas tout le temps là. Ce n'est pas comme la Première Guerre mondiale, hein, où c'était aux frontières de la France, c'était terrible. Beaucoup d'hommes sont morts dans les tranchées. Et nous leur devons une part de notre liberté et de notre paix. Et nous voulons être reconnaissants et prier pour la paix dans notre pays, pour la démocratie, qu'il n'y ait pas de dictature qui empêche les hommes de marcher librement. Ce soir, j'aimerais donc continuer les lettres de Jésus-Christ aux églises. C'est dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Et nous avons vu une première église la dernière fois, l'église d'où ? D'Éphèse, bravo. Et la deuxième église, c'est ce que nous allons voir ce soir, l'église de Smyrne. Et je vais lire en Apocalypse, chapitre 2, versets 8 et suivants. Écris, et c'est Jésus-Christ qui parle, écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et donc le Seigneur Jésus-Christ, ressuscité et glorieux, s'est révélé à l'apôtre Jean et lui a dicté des lettres pour 7 églises. 7 églises, c'est pour toutes les églises. Le 7, ça symbolise la plénitude et c'est pour toutes les églises de toutes les générations. Les lettres sont toujours sur le même modèle. Christ se présente d'abord. Aux Éphésiens, il avait dit « Voici celui qui... » ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Et là, il commence en disant, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Chaque fois, on a un aspect de Jésus-Christ qui commence la lettre. Ensuite, il dit en général, c'est les qualités de l'Église, ce qu'il apprécie dans l'Église. Ensuite, il dit ce qu'il reproche à l'Église. Il termine avec « que celui qui a des oreilles pour entendre, entende » et avec une promesse aussi pour la vie éternelle. Et ici, c'est merveilleux de pouvoir lire les paroles de Christ aux églises. C'est comme si le Seigneur Jésus s'adressait à nous. Ça m'encourage parce que parfois on vient à l'église d'une façon un peu routinière. C'est-à-dire, c'est l'heure, on y va. C'est l'heure du culte, on va chanter, c'est l'heure de l'étude biblique, on va y aller. Et encore, quand on y va, parce que des fois on dit c'est l'heure mais je suis fatigué, ou c'est l'heure où j'ai pas envie et on n'y va pas. Mais rendez-vous compte, quand on vient à l'église, on rencontre le Seigneur. Le Seigneur est là. Et on peut dire, oui, mais il est là chez moi aussi. C'est vrai, il est là chez moi aussi, parce que si j'ai le Saint-Esprit, Christ est avec moi partout où je vais. Mais quand il y a l'Église qui est réunie, il y a la présence vraiment particulière. Christ a dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, quand je suis tout seul chez moi, je ne suis pas 2 ou 3. Bon, s'il y a ma femme et mon fils, déjà on est 3. Mais là, on est réunis au nom du Seigneur et il est là. Il est là, il veut nous parler. Son Esprit est là. Et imaginez-vous comme les disciples qui étaient au pied de Jésus, qui pouvaient l'entendre enseigner. Nous voulons être aussi au pied de Jésus. Seigneur, enseigne-nous et nous avons sa parole. C'est ça qui est merveilleux. Smyrne, c'est une église qui se trouve en Turquie. Elle n'était pas très loin d'Éphèse. C'était une ville très riche, très commerçante. Aujourd'hui, c'est la ville d'Izmir, Izmir en Turquie. Et Smyrne, c'était un mot grec qui voulait dire la myrrhe. pas si vous connaissez cette plante aromatique, la myrrhe. Elle est assez présente dans la Bible. La myrrhe, c'est souvent symbole de quoi dans la Bible? Souffrance ou mort. Les mages ont apporté à Jésus trois choses. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'enfant Jésus? La myrrhe et l'or. Il y avait de l'or. Et l'or, c'est la divinité dans la Bible. Hein. C'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. L'encens sont les prières. Et la myrrhe, c'est quelque part prophétique. Cet enfant était appelé à souffrir pour nos péchés. On a embaumé Jésus dans de la myrrhe. On a proposé à Jésus du vin mêlé de myrrhe pour atténuer ses souffrances. La myrrhe a une vertu analgésique. Et Jésus a refusé cette boisson parce qu'il voulait souffrir jusqu'à la lie pour nos péchés. Il ne voulait pas être anesthésié sur la croix. Et effectivement, l'église de Smyrne, c'est l'église des souffrances. Hein. Jésus commence en disant « Je connais ton affliction ». Les chrétiens de Smyrne sont des chrétiens persécutés, qui sont calomniés, qui sont rejetés par la population de toute la ville. Smyrne est une ville qui a quand même donné le premier missionnaire en France, en Gaule. À l'époque, c'était la Gaule. Et comment s'appelait le premier missionnaire en Gaule? Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de l'Église? Il était à Lyon et il s'appelait Irénée. Bravo. Irénée de Lyon, c'était un Smyrnois, ou je ne sais pas si on dit un Smyrnois, en tout cas, il venait de Smyrne et c'est le premier missionnaire en Gaule. Et c'est à Lyon que les premières églises ont commencé. Hein, au tournant du IIe siècle, vers 120. Il y avait à Smyrne des guildes. Les guildes, c'est une sorte d'associations de commerçants très puissantes, très organisées et qui, justement, ramassaient beaucoup d'argent par le commerce. Il y avait à Smyrne aussi un temple dédié à César. Hein, l'empereur romain, c'était César Tibère à ce moment-là. Et on devait obligatoirement adorer, rendre un culte à César si on était habitant de Smyrne. Il fallait régulièrement aller au temple de César et prêter allégeance, reconnaître qu'il était Dieu. Et vous pouvez déjà imaginer le problème pour les chrétiens de se trouver dans une ville de ce genre. Il y avait une forte communauté juive, beaucoup étaient commerçants, et nous verrons qu'ils vont jouer un rôle malheureux dans cette histoire. Alors, il y a une particularité dans cette lettre à Smyrne. Elle est unique en son genre par rapport aux six autres lettres. Est-ce que vous savez ce qu'il y a de particulier? Il n'y a aucun reproche fait aux chrétiens de Smyrne. Hein. À Éphèse, qui était une très bonne église, il dit « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour ». Mais à Smyrne, il ne fait aucun reproche. Pourquoi? Probablement parce qu'il ne voulait pas accabler ces chrétiens qui étaient déjà persécutés. Vous savez, quand on est persécuté, on n'a pas besoin d'entendre encore « Écoute, ça ne va pas, hein. Ta vie ne va pas bien, tu n'es pas assez saint, assez je ne sais pas quoi. » Ce dont on a besoin, c'est de consolation, de réconfort, et ces chrétiens en avaient besoin. Et le Seigneur Jésus leur a apporté cette consolation. Il sait, il dit « Je connais ton affliction ». Lorsqu'un chrétien souffre pour le nom de Christ, Dieu le sait. Lorsque des chrétiens sont persécutés, on pourrait dire « Mais regardez, en Syrie, en Irak, il y a des chrétiens, on les a oubliés, personne ne pense à eux, et peut-être chez les hommes, il n'y a pas grand monde qui pense à eux, mais Dieu pense à ses enfants, et il sait quand ils souffrent. Il sait quand ils sont pourchassés, arrêtés. Alors ce qui a dû arriver à ces pauvres chrétiens, c'est qu'à cause de leur foi en Jésus-Christ, on les a mis de côté, on les a mis dehors de toutes les guildes, de tous les commerces. Ils ne pouvaient ni travailler, ni peut-être même acheter ou vendre. Et ça nous fait penser à la marque de la bête, hein, dont Jean parlera plus tard. Le 666, c'est une marque qu'il faudra recevoir dans le futur, pendant la grande tribulation. Et ceux qui n'ont pas la marque de l'antéchrist ne pourront ni acheter ni vendre. C'est-à-dire ils sont voués à la mort sociale et mort physique. Ici, je pense qu'ils vivaient quelque chose de similaire. Et non seulement ça, mais ils avaient en plus la communauté juive qui les calomniait. Pourquoi les juifs étaient particulièrement virulents? Parce que les premiers chrétiens étaient juifs. Les premières églises étaient juives. Jésus était juif, Paul était juif. La première église a commencé dans quelle ville? À Jérusalem. Et pour les juifs, dans le judaïsme, ces juifs qui croyaient en Jésus étaient des traîtres. C'était la pire, les pires des pires. Ils poursuivaient l'apôtre Paul. Hein. Paul a été poursuivi quasiment jusqu'à sa mort par des espions juifs, judaïsants, qui voulaient le calomnier et le faire tomber. Et qui l'ont accusé pour qu'il soit arrêté et condamné à mort. Nous aimons le peuple juif, nous aimons Israël parce que la Bible vient d'Israël, le Messie vient des Juifs, parce que nous sommes, nous, non-juifs, héritiers un peu de ce qu'ils nous ont transmis. Nous sommes, comme dit la Bible, hein, nous sommes les branches greffées sur l'arbre, et l'arbre c'est Israël. Donc nous aimons le peuple juif, mais il ne faut pas être aveugle. Il y a un certain nombre de juifs qui ne nous aiment pas. Et c'est pour ça qu'il faut l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'attend pas d'être aimé en retour. L'amour de Dieu, il donne sans attendre en retour. Mais il y en a un certain nombre. En Israël, il y a des églises et des chrétiens qui sont persécutés, surtout par les juifs hassidiques, les plus orthodoxes, hein, qui peuvent même vous assassiner. Hein. Ils sont capables de vous tuer si vous vous approchez trop des juifs avec l'évangile de Jésus-Christ. Ils disent que Jésus était une sorte de démon, de médium satanique. Hein, et c'est ce qu'ils enseignent à leurs enfants pour que personne ne croie en Jésus dans leur famille. Ici, Christ dit, ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Ce sont une synagogue de Satan. C'est-à-dire qu'ils faisaient le travail du diable en pensant servir Dieu. Et ça arrive souvent, ça, hein. Qu'en croyant servir Dieu, on fait du mal, en fait. On tue les gens par son intolérance, par sa haine. Dieu n'est pas un Dieu de haine, il est le Dieu d'amour. Donc si on est dans la haine et l'intolérance, on n'est pas avec Dieu, on est avec Satan. Et ces synagogues étaient des synagogues qui travaillaient pour détruire l'œuvre du Messie, pour s'attaquer au Seigneur Jésus à travers ses enfants. Je voulais dire quelque chose d'autre sur les Juifs, mais j'ai un petit peu perdu ma place. Voilà. Jésus nous dit qu'on peut se croire juif et ne pas l'être. Et c'est Paul qui a dit dans l'Épître aux Romains, « Le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Et quelque part, il faut choisir entre la louange des hommes et la louange de Dieu. Pour la louange des hommes, il faut l'apparence. Je suis circoncis, je suis dans la bonne synagogue, je suis dans la bonne doctrine. Mais aux yeux de Dieu, ce qui compte, c'est le cœur. C'est à l'intérieur. Un vrai juif, c'est quelqu'un qui aime Dieu profondément de son cœur et qui a son cœur circoncis. Ça veut dire quoi, circoncis? Ça veut dire qu'il est coupé, qu'il est séparé, qu'il est mis à part du péché. Hein. La circoncision, c'est une image aussi d'être séparé du monde qui est impie, du monde qui est contre Dieu. On pourrait appliquer ce verset de Romains aussi aux chrétiens. Le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et le baptême, ce n'est pas celui qui est visible dans la chair. Le vrai chrétien, c'est celui qui l'est intérieurement, et le baptême, c'est celui du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. On peut s'illusionner en tant que chrétien, de dire, mais moi j'ai été baptisé bébé, je suis d'une famille chrétienne, je suis dans un pays chrétien, j'ai même un oncle qui est prêtre, ou je ne sais pas, on a toujours quelqu'un dans sa famille, et donc tout va bien pour moi. Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'on compte. Il faut compter avec le cœur. Est-ce que mon cœur appartient à Dieu? Est-ce que je me suis tourné de tout cœur vers mon Dieu? Est-ce que je me suis repenti de mes péchés? Est-ce que j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur? Pas juste en apparence, pas une religion, mais une relation profonde. Alors, la persécution battait son plein à Smyrne. Les Romains et les païens aussi n'étaient pas en reste. Ils haïssaient profondément les chrétiens. Ils considéraient que c'était une secte horrible. Et vraiment, aujourd'hui encore, hein, quand on dit que ah, c'est une secte, c'est vraiment une tâche. Hein. Si on dit tu es membre d'une secte, alors là, c'est fini pour vous. Vous êtes socialement fichu, hein, rejeté à l'écart. Eh bien, c'était le cas. Tous les chrétiens étaient considérés comme une secte juive. Et non seulement on n'aime pas les juifs, mais alors on n'aime pas les sectes juives, hein, je peux vous le dire. Les Romains étaient très antisémites. Qu'est-ce qu'on disait des chrétiens? C'est les historiens qui nous ont expliqué cela. On disait que les chrétiens étaient cannibales. Pourquoi? Parce que lors de la communion, ils prenaient le pain et le vin en symbole du corps et du sang de Christ. Alors on disait, ben voilà, ils sont des cannibales, ils mangent le corps et le sang. On disait qu'ils étaient athées. Ça, c'est un peu amusant, parce qu'ils ne croyaient pas au tout le panthéon romain. Les Romains avaient une multiplicité de dieux. Les chrétiens, ils disaient, nous n'avons qu'un dieu. Ah oui, alors vous êtes des athées, vous n'avez pas de foi. On disait qu'ils étaient incestueux parce qu'ils s'appelaient tous frères et sœurs et qu'ils se faisaient un baiser fraternel lorsqu'ils se saluaient. Voilà les calomnies, parce que c'est vrai, les chrétiens prennent la communion en disant c'est le corps, c'est le sang. C'est vrai qu'on n'adore qu'un seul Dieu, c'est vrai qu'on s'embrasse et qu'on s'aime dans le Seigneur, on s'appelle frère et sœur, mais on n'est pas tout ce qu'ils pensent ou tout ce qu'ils ont dit que nous sommes. C'est à Smyrne qu'un disciple de l'apôtre Jean d'ailleurs, Polycarpe, est né. Et ce Polycarpe, ça veut dire en grec celui qui porte beaucoup de fruits, hein, qui a beaucoup de fruits, était un homme qui a vécu jusqu'à l'âge de 95 ans. Donc c'était rare à l'époque, hein, 95 ans. Et à 95 ans, il a été brûlé pour sa foi. Les historiens, là aussi, ont relaté, ceux qui ont connu à l'époque, ont relaté son martyre. Et souvenez-vous, Polycarpe a connu l'apôtre Jean. Donc, il était vraiment la génération après les apôtres. Hein. Il était tout près des apôtres et du Seigneur. C'est en 155 de notre ère que l'empereur Antonin le Pieux le fait arrêter parce qu'il fait toute une campagne. Le Pieux, il était pieux dans la religion des polythéistes. Hein. Donc, il n'était pas pieux dans la religion chrétienne. Il fait toute une campagne d'arrestation et de mise à mort des chrétiens dans tout l'Empire romain. Il est condamné pour athéisme, le pauvre Polycarpe. Et lorsque on va le condamner, il est devant un magistrat en public. Et voilà quelques phrases qui ont été prononcées. Le magistrat dit « Jure donc, et je te libère tout de suite. Maudis le Christ !» Polycarpe répond « Si tu t'imagines que je vais jurer par le nom de César, comme tu dis, en feignant d'ignorer qui je suis, écoute-le donc une bonne fois, je suis chrétien. Voilà 86 ans que je le sers, Jésus-Christ. Il ne m'a jamais fait aucun mal. Comment pourrais-je insulter mon roi et mon sauveur? Si le christianisme t'intéresse, donne-toi un jour pour m'écouter. » Le magistrat se met en colère. « Je t'envoie au bûcher si tu ne crains pas les fauves. Apostasie donc ta foi. » Et Polycarpe répond, « Tu me menaces d'un feu qui brûle une heure, puis s'éteint rapidement. Tu ignores donc le feu du jugement à venir et du châtiment éternel pour les impies. Mais pourquoi tardes-tu? Va, donne tes ordres. » Dans la foule, il y avait notamment, c'est relaté aussi par les historiens, un grand nombre de juifs qui voulaient la mort de Polycarpe et des chrétiens. Et c'est comme ça que Smyrne est connue, hein, pour avoir... la haine des manifester la haine des juifs envers les chrétiens. Polycarpe est mort brûlé, il est avec le Seigneur et il est parti comme un témoignage extraordinaire. À 95 ans, il avait de la répartie quand même, cet homme. Alors, aujourd'hui en France, nous ne sommes pas spécialement persécutés de cette façon, mais il y a des pays où c'est le cas. Il y a de plus en plus de chrétiens qui doivent fuir leur pays. Je pense encore à la Syrie, l'Irak, l'Égypte même. Le Liban aussi, c'est compliqué d'être chrétien de plus en plus. Et ça devient de plus en plus compliqué partout. surtout là où il y a des musulmans. Et on peut se demander, mais pourquoi la bonne nouvelle de Jésus-Christ ne fait pas l'unanimité? Parce que c'est merveilleux, c'est une bonne nouvelle, c'est l'amour de Dieu. Jésus n'a fait que du bien, les chrétiens normalement ne font que du bien. Pourquoi les hait-on? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'il y a cette haine? Alors, il n'y a pas de réponse facile à cela, mais je pense que c'est Satan qui est derrière, bien sûr, qui ne supporte pas que le nom de Jésus-Christ soit proclamé, qui ne veut pas qu'il y ait des chrétiens, il veut que tout le monde aille en enfer avec lui. Il sait qu'il y va, lui. Alors il veut en amener le plus grand nombre avec lui. Mais aussi ceux qui se laissent manipuler par le diable, hein, sans même y croire des fois, qui ne supportent pas les chrétiens par préjugés, parce que leur religion, justement, leur dit de haïr les chrétiens. Et Jésus avait dit, hein, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jésus nous a prévenus. Quand on devient chrétien, on doit faire face à des afflictions, à des persécutions. Et en France, c'est peut-être l'autre cas, le cas de l'exclusion sociale un peu. Vous êtes chrétien, c'est bizarre, toi, tu parles trop de Dieu. En France, il faut parler de Dieu chez soi et à l'église. Mais dès que tu en parles en dehors de ce cadre, alors là, tu es fanatique. Ou si tu pries trop, si tu vas trop à l'église, si tu lis trop la Bible ou je ne sais pas, tu es bizarre. Et je le sais parce que quand j'étais athée, je trouvais les chrétiens comme ça bizarres, oui. C'est vrai, je ne comprenais pas. Quand vous ne connaissez pas Dieu, vous ne comprenez pas. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que tu fais toute la journée à l'église? Mais franchement, moi, je restais 5 minutes, je m'ennuyais au bout de 5 minutes. Alors toi, tu restes toute la journée dans une église, mais qu'est-ce que vous pouvez bien faire? Et pourquoi vous êtes si souriant à l'église? Pourquoi vous êtes content d'être... On ne comprend pas. Mais quand on connaît l'amour de Dieu, quand on connaît le Seigneur, d'un seul coup, ça devient clair. Mais oui, je sais pourquoi, c'est parce qu'il y a Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu est invisible. Il est invisible, il n'y a même pas besoin de statue, il n'est pas là. Il n'est pas là en physique, il est là en esprit. Mais c'est lui qui fait cet amour, cette joie, cette paix. C'est lui qui nous unit, c'est pour lui qu'on est réunis. Et ça aussi, c'est troublant pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, de ne rien voir. Vous adorez qui, quoi, comment? Ah, nous adorons un Seigneur qui est invisible, mais qui est bien présent. Alors, le Seigneur encourage, mais aussi il avertit cette église. Il dit, vous serez éprouvés pendant 10 jours. Et on ne sait pas ce que ça veut dire, si c'est symbolique ou pas. Peut-être qu'il parlait effectivement d'une campagne d'arrestation et d'emprisonnement qui pouvait durer 10 jours. Si on se souvient bien, Daniel a été éprouvé pendant 10 jours. Lorsqu'il était en captivité sous le roi Nebuchadnezzar. 10 jours, ça peut être aussi 10, tout simplement, parce que l'église de Smyrne correspond à la deuxième église dans l'histoire. La première église, c'est l'église apostolique, l'église des apôtres, la toute première. La deuxième, c'est celle qui est dans la persécution jusqu'au 4e siècle, c'est-à-dire quasiment 100 ans de persécution sous les empereurs romains successifs. Et c'est ça l'église de Smyrne aussi, dans l'histoire. Et les historiens ont compté 10 vagues de persécution par différents empereurs romains. Il y a des empereurs qui étaient assez tolérants et qui laissaient une certaine paix, une certaine tolérance. On n'était pas libre, mais quand même, on n'était pas non plus persécuté. Mais dans ces 100 ans de vie, cette église, la deuxième église, a eu 10 vagues de persécution. Et chaque fois, c'était terrible. Il fallait donner la Bible quand on avait une Bible. Il fallait dénoncer les frères. Il fallait apostasier. Il fallait avoir un certificat qu'on avait bien adoré César au temple de César. Si vous n'aviez pas le certificat et qu'on vous arrêtait, vous pouviez être mis à mort, condamné à mort. Il y avait des tortures. Les Romains se sont mis à torturer les chrétiens par pur sadisme, hein. Non seulement il voulait les arrêter, mais il voulait les torturer. C'est là qu'il y a des récits extraordinaires de martyrs qui ont subi, notamment à Lyon, hein, on connaît Blandine. Et il ne faut pas penser que c'est juste une légende, Blandine. Hein. Il y a vraiment des éléments historiques concernant cette femme qui a tenu ferme pour sa foi jusqu'à ce qu'il ne savait plus, les bourreaux ne savaient plus quoi faire avec elle. Elle ne voulait pas mourir et elle ne voulait pas renier. Et finalement, elle est morte, on l'a mise dans un filet, elle était déjà assez mourante, hein, et on l'a livrée à un taureau dans une arène et le taureau l'a achevée. On se dit, comment faisaient ces gens? Mais vous savez que martyr, ça vient du grec martyros, et martyros, ça veut dire tout simplement témoin. Les témoins sont des martyrs. Et nous sommes appelés à être témoins de Jésus-Christ, pas témoins de Jéhovah, mais témoins de Jésus-Christ. Alors nous devons être prêts à subir des persécutions. Le Seigneur encourage cette église, il dit « Ta pauvreté, je l'ai vue, bien que tu sois riche. » Et c'est touchant parce que, donc ils avaient certainement, ils vivaient dans la pauvreté extrême, ne pouvant ni acheter ni participer au commerce de la ville. Ils voyaient tout le monde s'enrichir et eux, ils étaient là parce qu'ils étaient chrétiens, on les a mis à part, hein. On les a totalement rejetés. Mais il dit « Bien que tu sois riche, le chrétien, bien que pauvre est riche. » Et il y a deux versets qui nous disent ça dans la parole de Dieu. D'abord, il y a Jacques 2,5, si vous avez votre Bible. Et c'est une vérité spirituelle importante. « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. » Et il y a beaucoup de chrétiens pauvres dans le monde. Par exemple, dans les terres musulmanes, le chrétien n'a pas la même position que le musulman. Il est un dhimmi. Un dhimmi, c'est un sous-citoyen. Il ne peut jamais avoir certains postes à responsabilité. Il ne peut jamais avoir le même salaire ou les mêmes choses que le musulman. Et dans ces pays-là, beaucoup de chrétiens vivent vraiment pauvrement. En Arabie Saoudite en particulier, c'est un cas extrême. Vous avez beaucoup de Philippins qui travaillent là, qui sont au service des princes arabes. Ces Philippins sont quasiment tous chrétiens, mais ils sont des esclaves quasiment. Hein. Voilà. Ils acceptent presque pour gagner un peu d'argent d'être esclaves et ils sont considérés comme cela par leur maître. Et c'était déjà le cas à cette époque-là, mais le chrétien, lui, à la limite, il s'en fiche. Le chrétien, il est riche dans la foi. La vraie richesse, c'est ça. C'est la richesse de l'amour de Dieu, de la foi. On peut avoir peu d'argent, peu de biens matériels et avoir cette paix, cette joie. Et on peut vivre dans le luxe et être complètement fou et angoissé. Et le chrétien, surtout, il doit apprendre à être content de l'état où il se trouve. C'est Paul aussi qui, en 2 Corinthiens 6, raconte comment eux, les apôtres, qui témoignaient de Christ partout, il dit « Nous sommes inconnus, quoique bien connus. » C'est-à-dire, quand on parlait des apôtres, on dit « Qui c'est celui-là, l'apôtre Paul ne connaît pas. » Mais en fait, tout le monde les connaissait, parce qu'on dit « Ah oui, c'est ces gars qui prêchent partout, on n'arrive pas à les enlever, à les tuer assez vite. » Donc ils étaient inconnus et en même temps, bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, parce qu'on les laisse toujours pour morts. Paul, on l'a lapidé, on l'a laissé pour mort, et pourtant il était toujours en train d'évangéliser après. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme châtiés, mais pas mis à mort. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Le chrétien, même pauvre, enrichit les autres. Il n'y a rien de plus qui enrichit que les choses spirituelles. La vie éternelle, la foi, la paix de Dieu, l'amour de Dieu. C'est ça la vraie richesse dans ce monde. Et puis, Jésus continue avec l'église de Smyrne. Il lui dit « Ne crains pas, car je te donnerai la couronne de vie. » Ne crains pas. Quand on est dans la persécution, c'est dur. Vous attendez qu'on vienne vous arrêter, vous avez peur pour votre famille. Vous dites, est-ce que je vais finir sur un bûcher? Est-ce que je vais finir décapité? Est-ce que je vais finir en prison? Ça fait peur. Et Jésus dit, ne crains pas parce que je te réserve une couronne. Alors pourquoi est-ce qu'il parle de la couronne ici? C'est pas pour rien. C'est parce que Smyrne d'abord était appelée la couronne de la mer Égée. Et il y avait un ensemble de temples païens qui formaient aussi comme une couronne, puisqu'ils étaient tous en rond comme ça. Et on parlait beaucoup des couronnes à Smyrne, mais des couronnes du monde, des couronnes éphémères. Et Jésus dit, moi je vais vous donner la vraie couronne, la couronne de vie. Si vous surmontez, je vous donnerai cette couronne. Pour ceux qui meurent pour le Seigneur, ceux qui souffrent pour le nom du Seigneur. Ce n'est pas pour ceux qui sont malades. Quand on est malade, on ne souffre pas pour le nom du Seigneur, on est malade. C'est pour ceux qui, parce qu'ils sont chrétiens, souffrent. C'est ça. Et là, leur est réservée une couronne de vie. Et on n'imagine pas, on se dit, oui, mais moi, sur la terre, c'est sur la terre que j'aimerais voir quelque chose. Oui, mais le chrétien, il a son espérance et son héritage au ciel. Si on me prend la vie, personne ne pourra me prendre mon héritage qui est dans le ciel. J'aurai une couronne merveilleuse au ciel. Et même si je suis traité comme un déchet sur la terre, tant pis, parce que j'ai une couronne glorieuse au ciel. Je ne dis pas que c'est facile à vivre ou à dire, mais ça fait partie de la foi, de l'espérance du chrétien. Le chrétien regarde plus loin que la mort, plus loin que la souffrance physique. Il regarde au Seigneur. Et c'est ça qui fait que ces martyrs et ces témoins ont pu donner un témoignage extraordinaire face à la mort. Jésus dit, j'étais mort et je suis vivant. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Dans l'Apocalypse, la seconde mort, c'est la mort éternelle. C'est pour ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus, qui ne se sont jamais repentis, qui ont dit « moi, je n'ai pas besoin de salut, je n'ai pas besoin de Dieu », ceux-là vont entrer dans la seconde mort. Il y a la mort physique qui est la première mort, mais après, il y a la deuxième mort. C'est lorsque votre âme et votre corps, peut-être nouveau corps, est jeté dans l'étang ardent de feu. Personne ne veut aller là. Dieu veut que personne n'y aille, mis à part le diable. Il a dit qu'il a créé cet endroit pour le diable et ses démons. Mais il y a des gens qui y vont quand même et qui vont y aller parce qu'ils refusent le salut gratuit en Christ. Comme un noyé qui appelle à l'aide, on lui lance une bouée et il la rejette, il dit « j'en veux pas de ta bouée ». Alors on lui lance une corde, « j'en veux pas de ta corde ». Alors on lui tend une perche, il dit « je veux pas de ta perche ». Je me dis « mais écoute, je peux rien faire pour toi. Tu ne veux rien ». Et la personne coule. Et beaucoup en enfer vont couler comme ça. Parce qu'ils ont refusé le simple salut de Dieu, l'amour de Dieu qui leur était donné. Mais les chrétiens qui ont le Seigneur ne souffriront pas cette seconde mort. Ils vivront éternellement. Parce qu'ils sont avec Christ qui était mort et qui est revenu à la vie. Nous avons un Seigneur ressuscité, c'est ça notre grande espérance. Nous n'adorons pas un Dieu mort, un Dieu qui est resté sur la croix. Un Dieu qui a perdu, nous adorons un Dieu vainqueur de la mort, du péché, du diable. Et c'est ça qui fait la force de notre vie terrestre et de notre vie éternelle. La Bible dit que la piété est utile pour la vie présente et pour la vie à venir. Dans la vie présente, nous avons cette force spirituelle, cette joie, ce contentement, cette humilité. Et dans la vie éternelle, nous régnerons avec Christ. Ce sera quelque chose de merveilleux. Nous ne cherchons pas à régner sur la terre maintenant, nous ne cherchons pas la gloire humaine, nous cherchons la gloire de Dieu. Et s'il faut souffrir comme les Smyrnois, comme ces chrétiens de Smyrne, eh bien, vaille que vaille, parce que le Seigneur en vaut la peine. Mais c'est la question avec laquelle j'aimerais vous laisser. Est-ce que vous êtes prêts à mourir pour Jésus-Christ? Est-ce que votre foi va jusqu'à la mort? Je ne dis pas qu'on doit dire maintenant « oui, je suis prêt à se lever », mais au fond de moi, est-ce que ma foi, est-ce que mon Seigneur, mon Dieu, est si grand, si important, que si on me demandait de le renier, je ferais comme Polycarpe, je dirais « cours toujours, mon ami, je ne renierai jamais le Seigneur ». Je vous ai déjà raconté, mais je la raconte pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, l'histoire de ces étudiants missionnaires en Chine au début du XXe siècle. Ils étaient, je pense, anglais et américains. Ils étaient dans une sorte de maison pour les étudiants en théologie et ils évangélisaient les Chinois. Et puis, il y a eu la fameuse révolte des boxers où les Chinois se sont retourné contre les colons anglais pour les chasser. Et ça a été très, très violent. Il y a eu beaucoup de morts dans cette révolte. Et il y avait donc ces chrétiens-là, et les révoltés, les révolutionnaires sont arrivés devant la maison. Ils ont tout cassé et ils ont fait tomber la croix qui était contre le mur et ils l'ont mise par terre devant l'entrée. Et ils ont dit aux jeunes, celui qui sort de là en marchant sur la croix, il aura la vie sauve. Celui qui sort de là sans marcher sur la croix, en lévitant, il sera exécuté contre le mur. Alors vous imaginez, vous êtes dans cette situation. On peut dire qu'est-ce que c'est marcher sur une croix ou pas. Je peux marcher sur la croix et dire au fond de moi, mais ce n'est pas tellement par rapport à la croix ou au bout de bois ou au Seigneur. Dieu sait où on en est. C'est par rapport à ces hommes qui vous disent « renie ton Dieu ». Est-ce que mon Dieu vaut la peine d'être renié? Est-ce qu'il est si petit qu'il vaut la peine d'être renié ou est-ce qu'il est grand? Plus grand que leurs ordres. Et c'est une jeune femme qui est allée la première. Et elle a soigneusement évité de marcher sur la croix. Ils l'ont prise, ils l'ont posée contre le mur et ils l'ont exécutée avec un peloton d'exécution. Et ils sont tous morts. Tous. Il n'y en a pas un qui a renié son Seigneur. Ça, c'est la foi chrétienne. Ce n'est pas quelque chose pour le... C'est pas un hobby, la foi. C'est la relation avec le Dieu vivant, une vie éternelle. Et cette église de Smyrne nous le rappelle. Nous devons penser et prier pour nos frères et sœurs persécutés. Il y a beaucoup de persécutions encore. Ça ne cesse d'augmenter d'année en année. En Chine, ça se calme un petit peu, mais ça prend d'autres formes. Mais les pays musulmans, les ex-pays communistes sont les pays les plus difficiles. Alors prions pour ces frères et sœurs, prions pour les chrétiens aussi qui ne connaissent pas l'Évangile. Il y a des chrétiens qui sont dans la tradition chrétienne dans ces pays, mais qui n'ont jamais vraiment entendu l'Évangile, que lorsqu'ils viennent en Europe, qu'ils puissent l'entendre. Voilà. Et que nous soyons des chrétiens fidèles pour les accueillir et pour prier pour eux. On va terminer par un mot de prière et puis après on chante.